On le sait bien, généralement, quand on aborde un diagnostic médical, on s'attend à une précision absolue.
Ouais, on veut du concret.
C'est ça, presque comme en ingénierie. Tu te casses le bras, la radio montre cette petite ligne blanche bien nette.
Et le médecin pointe l'écran.
Exactement. Il pointe le doigt sur la fracture et il dit « voilà, le problème est précisément là ». Et franchement, c'est incroyablement rassurant.
Ah bah c'est binaire, c'est cassé ou c'est pas cassé.
Grave. On adore quand les choses sont visibles, tu vois. Quand elles peuvent être catégorisées, expliquées, rangées dans des petites cases bien logiques.
C'est rassurant pour l'esprit humain, c'est sûr.
Sauf que, aujourd'hui, on va prendre cette attente de clarté clinique et on va essayer de l'appliquer à la littérature antique, et plus particulièrement au livre de Job.
Oula, très mauvaise idée.
Ouais, on va vite s'en rendre compte. Parce que c'est un texte qui est souvent perçu, à tort d'ailleurs, comme un manuel, une sorte de radiographie parfaite de la souffrance humaine.
Alors que pas du tout.
Pas du tout. Donc, en nous basant sur les recherches du docteur John Walton, un grand spécialiste du Proche-Orient, notre mission aujourd'hui, c'est d'abandonner cette illusion de clarté.
C'est vraiment le but, oui.
L'idée, c'est pas de faire un sermon ou de tirer une petite morale réconfortante. On part sur une vraie investigation littéraire et philosophique pour comprendre ce que ce document antique essaye réellement d'accomplir. Bon, décortiquons tout ça. Il faut aborder l'œuvre sans préjugés, non ?
Absolument. Et c'est vraiment le point de départ incontournable. Pour bien situer ce document source, il faut réaliser à quel point le livre de Job est une anomalie.
Une anomalie linguistique, carrément.
Linguistique et structurelle, le docteur Walton souligne tout de suite que ce texte, il contient l'hébreu le plus difficile de tout l'Ancien Testament.
Attends, vraiment, le plus difficile ?
Ah oui, c'est pas une simple hyperbole de chercheur, hein. On parle d'une syntaxe archaïque, ultra complexe, et surtout de ce qu'on appelle en linguistique des apax logomena.
Des apax quoi ?
Apax logomena. En gros, ce sont des mots qui n'apparaissent qu'une seule et unique fois dans tout le corpus littéraire antique.
Ah ouais, d'accord, genre on n'a aucune autre référence pour les comparer.
C'est exactement ça, on les trouve nulle part ailleurs. Ce qui fait que pour les traducteurs, ce texte c'est un véritable cauchemar.
Ce qui explique sans doute la réputation du livre en fait. Pendant hyper longtemps, on a entendu cette idée que Job serait une sorte de monstre de Frankenstein littéraire.
Ouais, un assemblage chaotique.
Voilà, avec des morceaux écrits à différentes époques, recousus ensemble par un éditeur un peu maladroit.
C'est une rumeur super tenace dans certains cercles critiques, mais l'analyse de Walton la réfute avec beaucoup de force.
Il n'est pas d'accord du tout.
Pas du tout. Selon lui, malgré toutes ces difficultés linguistiques monumentales, on a affaire à un texte littéraire profondément cohérent.
Donc c'est unifié.
Totalement. L'auteur ou les auteurs originaux suivaient un plan narratif extrêmement précis. Et ce plan, il est conçu spécifiquement pour déstabiliser.
Et c'est là que le bât blesse pour nous, avec nos attentes modernes.
Ah, complètement. Quiconque lit ce texte en espérant y trouver une équation théologique, tu sais, une justification universelle qui expliquerait la mécanique de la souffrance innocente,
cette personne va être super déçue.
Elle refermera le livre avec une frustration immense. La forme même du livre est conçue pour briser ces attentes-là.
C'est fou, parce que le problème, c'est que notre cerveau est littéralement programmé pour chercher des coupables.
Dès qu'il y a un drame, oui.
Face au malheur, on pense tout de suite en termes de justice, de tribunal, de récompense ou de punition. Donc quand on aborde l'histoire de Job, ce gars qui perd tragiquement ses enfants, sa richesse, sa santé en un clin d'œil, on s'installe dans la posture d'un jury.
Et Job lui-même partage cette obsession du tribunal, en fait. Le texte joue sur ce réflexe humain fondamental. La structure narrative construit un piège magistral autour de cette idée du procès.
Il pense qu'il est en procès, lui, hein ?
Naturellement, oui. Il pense d'abord qu'il est en procès au pénal. Il est persuadé d'être l'accusé dans une affaire cosmique. La logique de l'époque est franchement une logique encore très présente aujourd'hui.
Bah oui, l'idée que toute action entraîne une conséquence.
Exactement. L'idée qu'une grande souffrance, c'est forcément le résultat d'une grande faute. Donc Job se dit qu'il a dû enfreindre une règle majeure pour subir un tel acharnement.
C'est la bonne vieille équation de la rétribution. Mauvaise action égale punition. Bonne action égale prospérité.
Voilà. Et pourtant, Job, dans son fort intérieur, il sait très bien qu'il n'a rien fait qui mérite une telle dévastation. Il scrute sa conscience et il trouve aucun crime à la hauteur de la peine.
C'est là que l'analyse devient passionnante. Qu'est-ce qu'il fait du coup ?
Eh bien, l'analyse de Walton met en lumière un changement de tactique fascinant dans le texte. Job comprend que le tribunal pénal n'a aucun sens. Donc, il tente de déplacer l'affaire au civil.
Attends, il veut intenter un procès au civil à Dieu ?
Oui. Puisqu'il n'est pas coupable, il estime être la victime de dommages injustifiés et il décide littéralement de poursuivre le créateur de l'univers pour obtenir réparation.
Non mais c'est d'une audace folle pour un texte antique, l'idée qu'un simple humain exige des dommages et intérêts à une divinité.
C'est sans précédent. Il exige une audience. Il veut traîner Dieu à la barre des témoins pour qu'il s'explique sur cette rupture de contrat.
Mais cette posture légale, elle nous amène à une ironie dramatique qui crève les yeux quand on lit l'intro du livre. Parce que nous, en tant que lecteurs, on a un pass VIP pour les coulisses.
Ah oui, le fameux prologue dans les cieux.
Dès le premier chapitre, on assiste à une conversation céleste qui règle la question de la culpabilité de Job de manière définitive. Dieu lui-même déclare que Job est irréprochable. La question de ses péchés est évacuée avant même que la première tragédie ne frappe.
C'est tout le génie de la construction littéraire de ce texte. Job l'ignore, ses amis qui viennent pour le conseiller l'ignorent aussi, mais l'auditoire le sait.
On a une longueur d'avance.
Voilà, on sait que Job n'est pas l'accusé, les charges n'existent même pas. Et Walton fait une observation capitale ici. Si Job n'est pas sur le banc des accusés, quel est son véritable rôle dans ce grand drame juridique?
Et la réponse est incroyable. Il est le témoin principal de la défense.
Exactement.
L'image est tellement frappante. C'est comme se présenter au tribunal, tu vois, en costume, tu transpires à grosses gouttes, l'estomac complètement noué.
Persuadé que tu vas aller en prison?
Voilà! Tu es persuadé d'être poursuivi pour un crime atroce, tu prépares ta plaidoirie, tu trembles devant le juge pour découvrir soudainement, au milieu de l'audience, que tu es le témoin clé convoqué pour innocenter quelqu'un d'autre.
C'est le renversement total. Ce n'est pas lui la cible.
Ce n'est pas lui. Mais, et c'est là que ça donne le vertige, si ce procès colossal ne porte pas sur les crimes ou la vertu de Job, qui est réellement sur le banc des accusés? Sur qui porte vraiment ce livre?
C'est ça le vrai sujet. Et le grand renversement opéré par le texte, c'est que malgré son titre éponyme, ce livre ne parle pas de Job, il parle de Dieu.
Ah ouais?
Le changement de protagoniste? Job est celui qui subit l'action, évidemment. Mais le sujet central, l'objet de toute cette investigation philosophique, c'est la nature même de la divinité et la façon dont l'univers est gouverné.
C'est vertigineux.
Ce Walton insiste vraiment là-dessus. Il faut qu'on abandonne nos lectures moralisatrices. Job n'est pas du tout présenté comme un modèle de vertu face à l'adversité qu'il faudrait imiter.
Il faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Parce que ça contredit des siècles de culture populaire. L'expression « avoir la patience de Job » s'est inscrite dans notre langage courant. On imagine ce gars hyper stoïque, pieux, qui accepte son sort en silence.
Et c'est un mythe culturel super tenace.
Mais il s'effondre à la simple lecture des chapitres centraux. Dans le texte, les réactions de Job sont tout sauf patientes ou stoïques.
Il craque complètement.
Elles sont chaotiques, désespérées, viscérales. Il maudit le jour de sa naissance, il accuse Dieu de cruauté, on frôle le blasphème.
Il est juste humain en fait. C'est un être humain pris dans un ouragan cosmique qu'il n'arrive pas à déchiffrer. Et pour piger ça, il faut vraiment replacer le livre dans son genre littéraire précis. C'est de la littérature de sagesse du Proche-Orient ancien.
C'est-à-dire? Parce que quand on entend « littérature de sagesse », on pense à des petits recueils de proverbes mignons, des maximes pour bien vivre sa journée.
Ouais, c'est l'erreur classique. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, la littérature de sagesse n'a rien à voir avec des citations inspirantes sur Instagram. Hein.
J'imagine bien.
C'est une catégorie littéraire très lourde, qui s'attaque aux mystères les plus profonds de l'ordre cosmique. Ça explore les limites de l'entendement humain face à ce qui est incompréhensible.
Donc la sagesse, c'est pas le comportement moral?
Non. La sagesse, dans ce cadre, ça ne consiste pas à savoir comment bien se comporter face à la tragédie. Ça consiste à tenter de cerner les contours d'une intelligence divine qui dépasse mais totalement la logique de rétribution humaine.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'honnêtement, ça pose un problème énorme pour nous aujourd'hui. Si ce texte prétend révéler la nature de l'univers et de Dieu, et non celle de Job, on est en droit d'attendre un dénouement clair.
Une explication en bonne et due forme.
Bah oui! Après presque 40 chapitres où Job et ses amis s'écharpent sur la justice, l'injustice, le sens du malheur, Dieu apparaît enfin dans une tempête à la fin du livre. Et là, rien.
Le silence absolu sur ce point.
Il ne se justifie pas. Il ne donne aucun calcul cosmique pour dire à Job, voilà, la perte de ta famille, c'était nécessaire pour tel grand dessein. Rien du tout.
Ce qui est fascinant ici, c'est que ce silence divin sur la question de la justice est assourdissant. La voix dans la tempête ne présente aucune excuse. Elle ne mentionne même pas la souffrance de Job, ni la mort de ses enfants.
C'est rude quand même, hein ?
Au lieu de ça, Dieu entraîne Job dans une espèce de visite guidée vertigineuse de l'univers. Il lui parle de la naissance des étoiles, des limites de l'océan et de créatures sauvages et indomptables comme le fameux Léviathan.
Mais on va être franc, c'est pas une énorme solution de facilité littéraire, ça, hein ?
C'est l'équivalent antique de dire « les voies du Seigneur sont impénétrables » juste pour éviter de répondre à la dure réalité de l'injustice.
Ça donne cette impression.
C'est presque une esquive, genre « désolé, l'univers est trop grand pour toi, mon petit Job, tais-toi et accepte ». Comment le docteur Walton défend-il ce passage pour que ça ne paraisse pas juste cruel, hein ?
Il le défend en déconstruisant notre obsession moderne pour la fameuse justice. Selon Walton, le concept même de justice, tel qu'on le conçoit avec nos tribunaux, c'est une grille de lecture totalement inadéquate pour évaluer le divin.
Inadéquate. Pourquoi ?
Pourquoi la voie ne justifie pas ses actions ? Parce que pour évaluer si une action est juste, il faut occuper la place du juge. Et un juge, pour rendre son verdict de manière intègre, il doit disposer de la totalité des informations.
Il faut tout le dossier, ouais.
Il doit voir l'ensemble du réseau des causes et des conséquences à travers le temps, l'espace, tout. Face à la complexité ahurissante de la création, l'humanité est structurellement incapable d'avoir toutes les pièces.
On a un déficit de données.
Totalement. Nous ne sommes pas équipés cognitivement pour être le jury du cosmos.
C'est là que la classique métaphore du jeu d'échecs prend tout son sens, je trouve.
Ah oui, excellente métaphore.
Imaginons un grand maître international en train de jouer la partie de sa vie. Et nous, on observe. Mais on est contraint de regarder la partie à travers un microscope qui nous laisse voir qu'une seule case du plateau.
Juste une case sur 64.
C'est ça. Et sur cette petite case unique, on voit le grand maître sacrifier délibérément sa reine. De notre point de vue, focalisé sur cette mini-tragédie locale, c'est un acte insensé. On se dit que c'est injuste pour la reine, que c'est un gaspillage absurde.
C'est une erreur stratégique monumentale de notre point de vue.
Mais ce qu'on ne peut pas voir, c'est que ce sacrifice hyper précis interagit avec tout le reste du plateau qu'on ne voit pas pour forcer un échec et mat inévitable trois coups plus tard.
C'est tout le problème de notre perception.
Exiger que le joueur s'explique en se basant uniquement sur notre vision au microscope, c'est pas seulement arrogant, c'est complètement ignorer la nature de la stratégie globale.
Cette analogie de l'échiquier illustre parfaitement nos limites cognitives. Mais l'analyse de Walton s'aventure sur un terrain théologique encore plus pointu. Il explique que la déclaration « Dieu est juste » pose en fait un énorme problème conceptuel dans le cadre de ce livre.
Ah bon ? Un problème conceptuel ? Affirmer que Dieu est juste, c'est un peu la base de presque toutes les traditions religieuses, non ?
Oui, mais regardons les implications philosophiques de cette phrase. Si on dit que Dieu doit être juste, ça sous-entend qu'il existerait une norme externe, une loi suprême qu'on appellerait la justice.
Qui flotterait au-dessus de tout ?
Je dirais que la justice est plus grande que Dieu et qu'elle agit comme une sorte de critère de notation pour évaluer ses actions.
Ah, je vois. Si Dieu doit passer un examen moral pour prouver qu'il est juste, alors il n'est plus l'autorité suprême. Il est soumis à la loi de la justice, exactement comme nous, en fait.
Précisément. Et ça limiterait fondamentalement sa nature. Le postulat radical du livre de Job, selon Walton, c'est que la justice ne contraint pas le divin. C'est le divin qui définit l'ordre du monde, un ordre qui englobe notre petite justice humaine, mais qui la dépasse immensément.
C'est pour ça qu'il ne se justifie pas à la fin.
C'est pour cette raison exacte que le texte ne s'efforce jamais de défendre la justice de Dieu. À la place, il met en avant sa sagesse. Et la sagesse, dans cette optique antique, c'est l'architecte qui conçoit l'ensemble de l'écosystème.
Un écosystème avec du chaos aussi.
Oui, un écosystème où des forces sauvages existent, où le chaos n'est pas éliminé mais maintenu dans des limites précises. L'humanité réclame un monde fondé uniquement sur la justice punitive et rétributive, un monde lisse. Mais l'univers présenté dans Job est infiniment plus vaste et indomptable.
Alors que signifie tout cela ? Ça nous pousse vers une conclusion assez vertigineuse. Si on lit ce monument littéraire avec tous ses débats et sa poésie complexe et qu'on réalise qu'il refuse obstinément de nous fournir le manuel du pourquoi la souffrance frappe les innocents.
Ce qui est très frustrant.
Très bien. Mais que reste-t-il du coup ? Si le but, c'est pas de nous donner la clé mathématique de nos douleurs, l'auteur a forcément un autre objectif en tête. S'il n'offre pas le pourquoi, il doit nous offrir un comment.
Et ce comment opère un déplacement radical du projecteur. Le livre ne cherche pas du tout à équiper notre intellect d'une armure philosophique pour théoriser sur le mal depuis notre canapé.
C'est pas un traité théorique.
Non, ça explore une question infiniment plus intime et viscérale. Comment se positionner face à l'insondable pendant que l'on souffre ? Quand l'échiquier s'effondre ? Quand la radiographie ne montre rien de logique, on fait quoi ? Faut-il maudire le vide ? Faut-il fuir toute idée d'ordre cosmique ?
Et la réponse du texte ?
Le texte affirme que l'obsession d'obtenir des réponses intellectuelles est une impasse. Ça ne fait qu'isoler l'individu. En lieu et place d'une explication rassurante, le livre propose la confiance.
La confiance. Bon, on va être honnête. Quand on traverse une épreuve terrible, s'entendre dire qu'il faut simplement avoir confiance, ça sonne affreusement creux.
C'est vrai que c'est difficile à entendre.
Ça ressemble un peu à l'ultime échappatoire spirituel quand on est à court d'arguments, non ? J'ai pas d'explication, alors aie confiance.
Ça peut certainement être perçu comme tel, surtout dans notre culture moderne, qui est vraiment éprise de contrôle. On veut tout gérer. Mais Walton met en lumière un paradoxe d'une logique implacable ici.
Lequel ?
La confiance, par définition, c'est la seule réponse possible face à une ignorance structurelle insurmontable. Réfléchis-y. Si le grand maître d'échecs nous expliquait sa stratégie de A à Z.
Ou si on voyait tout le plateau.
Voilà.
Si on voyait tout le plateau spatial et temporel, la confiance deviendrait totalement obsolète. On ne fait pas confiance à un fait prouvé. On ne fait pas confiance à une équation mathématique dont on vient de vérifier le résultat, tu vois.
C'est clair. On la constate, c'est tout.
La mécanique même de la confiance nécessite l'absence d'explication complète. Elle n'existe que dans le vide laissé par nos certitudes brisées. Exiger des réponses claires et nettes avant de s'engager, c'est très exactement refuser la dynamique de la confiance.
C'est un changement de paradigme super puissant, hein.
Et ça nous ramène, la boucle est bouclée, à la toute première question posée dans le livre.
La fameuse question du prologue.
Ouais. Tout l'idrame s'ouvre sur un défi lancé par une figure qu'on appelle l'adversaire. Et là, il faut faire une pause. C'est crucial de préciser qu'en hébreu, le Satan, dans ce texte antique, c'est pas du tout le petit démon rouge avec des cornes et une fourche qu'on voit plus tard.
Ah non, rien à voir. C'est un titre fonctionnel.
C'est un titre, oui. C'est le procureur, celui qui vient questionner le système. Et la question qu'il pose à Dieu, c'est pas « Est-ce que Job est assez fort pour supporter la douleur ?» Il demande « Job sert-il Dieu pour rien ?»
Pour rien. C'est vraiment l'épicentre du livre. C'est une autopsie de la droiture humaine.
Une autopsie, ouais.
Ce que l'adversaire suggère, c'est que la piété de Job, et par extension toute piété humaine en général, c'est en fait qu'une forme très sophistiquée d'opportunisme.
Il suit les règles pour avoir sa récompense.
Exactement. Il dit que Job obéit aux règles uniquement parce qu'il sait que Dieu le protège et l'enrichit en retour.
Et pour illustrer ça, le docteur Walton utilise une métaphore brillante. Il dit que le problème, c'est de considérer l'univers comme un distributeur automatique.
C'est très visuel.
On insère la petite pièce de la bonne conduite, on appuie sur le bouton de la morale et bing, la machine nous délivre une belle canette de prospérité, de santé et de protection.
C'est très mécanique.
Mais si c'est comme ça qu'on opère, alors c'est plus de la droiture, c'est de la gestion de portefeuille. C'est une transaction commerciale basique déguisée en vertu. Et franchement, on voit ce concept partout aujourd'hui.
Ah bah ça n'a pas disparu.
Le karma occidentalisé, le développement personnel toxique qui promet que si tu penses positif, l'univers t'enverra le succès financier. C'est exactement la même mécanique transactionnelle.
Si nous relions cela à une vision plus globale, le test proposé par ce procureur cosmique est d'une froideur scientifique absolue. Que se passe-t-il si on débranche la machine ?
S'il n'a plus de canette.
Voilà. Si Job insère sa petite pièce de vertu, s'il fait tout parfaitement bien, et qu'au lieu d'obtenir sa canette de prospérité, la machine lui tombe lourdement sur le pied et lui brise les os.
Ah, l'image est terrible.
Si la relation avec l'ordre divin n'est basée que sur la transaction, alors cette soi-disant droiture, elle s'évapore à la seconde même où la récompense disparaît. Dans cette perspective, la souffrance dans Job n'est pas une punition. Elle agit comme un réactif chimique.
Un test de résistance.
Un test extrême qui dissout toutes les façades pour révéler ce qui se cache au cœur de nos actions. Le procureur pose la question ultime. L'humanité est-elle capable d'aimer le bien de manière désintéressée ou n'aimons-nous que les bénéfices du bien ?
Ça fait froid dans le dos quand on y pense. Ce texte, il détruit littéralement l'illusion d'un univers transactionnel. On termine la lecture non pas en ayant percé le secret des dieux, mais en étant forcé de regarder notre propre reflet dans le miroir.
On est acculé.
La question qui nous hante, c'est plus « Pourquoi ce monde est-il si injuste avec moi ?» Mais « Est-ce que mes propres convictions tiendraient debout si on me retirait toutes mes récompenses ?»
C'est ça.
Donc, pour résumer cette exploration fascinante de l'analyse de Walton, ça nous force à un renversement total de nos instincts de lecteur. Il faut presque lire l'œuvre à l'envers. On pensait que Job était l'accusé.
Mais l'ironie dramatique montre qu'il était le témoin clé, appelé à la barre pour prouver qu'une vertu désintéressée est possible.
Exact. Le livre ne nous dresse pas le portrait lisse de la fameuse patience de Job. Il dépeint un homme au bord du gouffre, qui essaie de comprendre un univers qui ne lui doit absolument aucune explication. Ce récit abandonne la petite case de la justice punitive pour nous forcer à contempler ce fameux plateau d'échecs cosmique régi par une sagesse insaisissable.
Et loin de nous offrir la chaleur rassurante d'un pourquoi bien défini, il nous laisse avec le défi de choisir la confiance, même dans l'obscurité totale. Ce parcours illustre le danger profond de nos biais cognitifs et culturels.
On plaque nos attentes sur tout.
Oui. Imposer nos propres attentes, que ce soit à la littérature antique, à nos proches ou à l'univers, ça mène inévitablement à la déception. Si on approche la vie avec un cahier des charges rigide de la façon dont le distributeur automatique cosmique devrait fonctionner,
on va se fracasser contre la réalité.
On est condamné à être brisé par la complexité du réel. Mais cela soulève une question importante, un dernier élément que Walton souligne et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde avant de finir.
Vas-y.
Ça concerne les trois amis de Job, Eliphaz, Bildad et Tsophar.
Ah oui, ceux qui viennent le voir pendant son épreuve.
Ils font le voyage pour l'entourer. Et tout au long du livre, ils prononcent de très longs discours pour essayer d'expliquer à Job pourquoi il souffre. Mais ce qui est fascinant, c'est que Walton note que leurs discours sont remplis de théologie techniquement correcte.
Ah oui, amatissant.
Ils n'ont pas tort en soi. Ils défendent ardemment l'idée que Dieu est juste, qu'il punit le mal et récompense le bien. Ils détiennent une partie de la vérité, du moins la vérité telle qu'elle était enseignée dans les écoles de sagesse traditionnelles.
D'accord, donc sur le papier, ils ont de bons arguments.
Leurs principes sont, en surface, irréprochables. Et pourtant, Dieu finit par condamner leurs paroles avec une sévérité extrême à la fin du livre.
Pourquoi s'il disait la vérité ?
Parce que l'application de ces grandes vérités abstraites est d'une brutalité inouïe. Ils utilisent des concepts théologiques pour accuser un homme qui souffre déjà atrocement. Ils cherchent à protéger leur propre vision rassurante du monde plutôt que de compatir au chaos que traverse leur ami.
Donc la vérité devient une arme ?
Une arme contondante.
C'est d'un réalisme frappant. Et je trouve que ça offre une réflexion finale essentielle pour ceux qui nous écoutent. À quelle fréquence, dans notre quotidien, quand on fait face à quelqu'un dont le monde vient de s'écrouler, à quelle fréquence on utilise des déclarations techniquement vraies, mais profondément destructrices ?
Les fameuses phrases toutes faites.
Ouais, le temps guérit toutes les blessures, tout arrive pour une raison, ou l'horrible, tu en sortiras plus fort.
C'est terrible d'entendre ça quand on va mal.
Ces petites maximes transactionnelles, assénées comme des vérités froides, elles manquent cruellement de compassion. Elles servent surtout à rassurer celui qui parle pour ne pas qu'il ait à fixer le chaos de l'autre dans les yeux. Le livre de Job nous livre un avertissement intemporel ici. Avoir techniquement raison sur le papier, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de faire preuve de sagesse.
C'est une distinction fondamentale.
Donc, pour revenir à notre point de départ, face à la brutalité du monde, on réclame tous cette fameuse radiographie bien nette. On veut le diagnostic précis, la certitude binaire, qui nous expliquera où l'univers s'est fracturé et comment la justice le réparera.
Mais la machine à rayons X ne peut pas fonctionner ici.
Non. L'échiquier est beaucoup trop vaste. Et dans ces immenses zones d'ombre, l'objectif suprême, c'est pas de trouver l'explication parfaite. L'objectif, c'est peut-être simplement de trouver le courage de naviguer dans l'incertitude, sans exiger que la carte nous soit fournie à l'avance.